Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera, vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale pertinente au moins les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis déjà pas mal de temps, le 19e siècle, c'est vous dire. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons rapidement, hélas, évoquer la carrière d'un grand réalisateur français, parfois, comme souvent, injustement traité dans son propre pays, mais qui a su, au fil d'une carrière très éclectique, eh bien aligner films personnels et superproductions internationales, les unes et les autres, avec un certain succès. Qui ? Oui, je sais, effectivement, Jean-Jacques Hano, c'est de lui dont nous allons parler ce jour. Jean-Jacques Hano, né le 1er octobre 1943 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, si vous voulez le savoir, qui est issu d'un milieu modeste, pas comme souvent les réalisateurs issus de l'IDEC, Fémis et autres repères de petits bourgeois. Et il faut bien le dire, Jean-Jacques Hano est le fils d'un cheminot et d'une mère secrétaire de direction. Son grand héros, en tout cas c'est lui qui l'a évoqué dans de nombreuses interviews, eh bien ce n'est rien moins que Jean Renoir, le plus grand cinéaste français, disons-le. Et ma foi, il aurait pu placer sa future carrière sous des auspices moins prestigieuses. Carrière qu'il commence en suivant l'enseignement de l'école Louis Lumière, puis de l'IDEC. Eh oui, il n'y a pas que des petits bourgeois à l'IDEC. Donc. Et puis surtout, ensuite, en faisant plus de 400 films publicitaires. C'est avec ces films publicitaires que Jean-Jacques Hano fait ses premières armes de cinéaste et puis commence à se faire connaître, ce qui lui permet de tourner en 1976 son premier film. Alors, je vais essayer de ne pas être aussi bavard qu'à l'habitude, donc on va être rapide, mais ce premier film s'appelait « La victoire en chantant ». Il n'eut aucun succès en France, par contre il obtint l'Oscar du meilleur film étranger, sous pavillon ivoirien, allez savoir pourquoi. Et puis, eh bien, il permit à Jean-Jacques Hano d'enchaîner sur un second film, lui aussi bien méconnu, alors que je le recommande à tous les anti-fouteux, rejoignons-nous et voyez Coup de tête de Jean-Jacques Hano sur un scénario de Francis Weber avec en vedette le regretté Patrick Devers. Franchement, c'est le film pour nous anti-fouteux, tourné en 1979, dont je n'ai pas besoin de vous dire qu'il obtint en France un succès relativement mitigé, bien sûr, qui n'empêcha pas pour autant Jean-Jacques Hano d'enchaîner en 1981. Avec un film adapté d'un roman de Rony Aîné, bien oublié depuis. Par contre, je pense que le roman lui-même ne l'est pas. Ça s'appelait « La guerre du feu » et comme on s'en doute, cela se passait quelque part à l'âge de pierre. On va écouter un extrait de cette bande originale. Je vous dirai deux mots du film, évidemment, après. Mais on va déjà écouter un extrait de la bande originale. Elle était signée de Philippe Sard. Et alors, je vous préviens, c'est un vinyle d'époque, mesdames et messieurs, dans 24 notes secondes. La guerre du feu, Jean-Jacques Hano, Philippe Sard, Divergence FM. Thank you. La colossale, je ne crains pas de le dire, partition de Philippe Sard pour La guerre du feu, un film de Jean-Jacques Hano auquel nous consacrons l'émission de ce jour. Un film tourné en 1981, pardonnez-moi, sur un scénario de Gérard Braque, d'après un roman de Ronnie Aîné qui comptait, comme son nom l'indique, eh bien, la guerre du feu, c'est-à-dire la guerre entre des tribus de Néandertaliens et d'Homo sapiens pour conserver le feu. Le feu dont les Homo sapiens eh bien, étaient les seuls à l'époque à savoir maîtriser le mystère. C'est bien pour ça que nous sommes encore là et que les Néandertaliens nous ont quittés. Un film qui, alors qu'on aurait pu supposer que le décor et autres costumes auraient pu occasionner un certain dépouillement budgétaire, eh bien, il n'en était rien. Au contraire, c'est une très grosse production avec des maquilleurs en veux-tu, en voilà, des mammouths. Pas vraiment des mammouths, en fait, des éléphants, maquillés en mammouths qui mangèrent leurs poils, si vous voulez tout savoir. Bref, une très grosse production à laquelle on peut aussi attacher les noms d'Anthony Burgess, peut-être plus connu comme l'auteur d'Orange Mécanique et de quelques autres romans, qui créa pour le film un langage tout à fait particulier. Effectivement, il est difficile d'imaginer comment pouvaient s'exprimer les Néandertaliens et les Homo sapiens. Non, mais il n'y a pas que des supporters quand même. Ils ont parfois un langage articulé aussi. Ça, c'est pas gentil de dire des choses pareilles. Un film dans lequel aussi, même si là encore on avait du mal à les reconnaître, débutèrent quelques acteurs et actrices qui firent leur petit bout de chemin. Et notamment Ron Perlman, que vous n'avez sans doute pas oublié depuis dans le rôle principal de Hellboy 1 et 2. Et qui aussi, sauf erreur de ma part, je ne fais pas dans ce genre de feuilleton, de série, pardonnez-moi, underground, et l'un des piliers de la série Sons of Anarchy, juste pour dire que je ne m'intéresse pas qu'aux films des années 80. On voyait aussi débuter dans ce film, elle a eu une carrière, elle, plus brève, Rae Dong-chung. Alors effectivement, c'est un nom un peu difficile, et ceux et celles qui ont vu le film quelque part entre le début de leur puberté et la fin de leurs illusions amoureuses, eh bien n'auront pas oublié la fin de la guerre du feu au moment où Rae Dong-chung apprend au héros qu'il y a d'autres façons de se reproduire que celles qu'il avait jusque-là expérimentées. Je vous le recommande, La guerre du feu, ça reste vraiment un must. Un must qui obtint d'ailleurs cette année-là le César du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Jean-Jacques Hano, comme quoi j'ai été un peu dur en disant que l'homme n'était pas forcément reconnu sur ses terres. En tout cas, aussi un très très gros succès pour un film qui n'était pas forcément un triomphe annoncé, qui permit à Jean-Jacques Hano, 5 ans plus tard, mais l'homme est perfectionniste et il se lance toujours dans des projets extrêmement complexes et coûteux, qui lui permit en 1986 eh bien, de mener à bien l'adaptation à l'écran d'un roman dont j'avoue, quand je l'ai lu, je pensais qu'il était absolument impossible de l'adapter à l'écran. Ça s'appelle toujours Le nom de la rose. Peut-être certains et certaines d'entre les fidèles auditeurs de Divergence FM l'auront lu. Un roman d'Umberto Eco qui se passe quelque part en 1327 où un moine franciscain, Guillaume de Baskerville, alias Sean Connery, dans le film de Jean-Jacques Hano, eh bien, doit enquêter dans une abbaye bénédictine. Donc il n'est pas dans ses terres, sur une série de meurtres mystérieux dont il finira par découvrir la cause dans un livre perdu. Je ne vous en dis pas plus, le roman qui était truffé quand même de nombreuses citations latines semblait inadaptable. Eh bien ma foi, Jean-Jacques Hano, avec la complicité au scénario de Gérard Brard, à nouveau d'Andrew Birkin et de H. Franklin, j'avoue que j'ignore le prénom de ce monsieur, mais bienvenue à lui, eh bien, s'en tirèrent avec beaucoup d'honneur, surtout que la production tournée, mise en Italie, mise en Allemagne, bénéficia de décors et de costumes absolument extraordinaires et que Sean Connery, eh bien, ma foi, était tout à fait convaincant dans le rôle principal. La musique en était signée de James Horner, dont on va, si j'ai le temps, réécouter quelques extraits, puisqu'il fut l'un des compositeurs fétiches de Jean-Jacques Hano. J'en ai dit trop, on l'écoute. Le nom de la rose, Jean-Jacques Hano, 1980. La mystérieuse et magique partition de James Horner pour un film qui ne l'était pas moins, Le nom de la rose, adapté du roman d'Umberto Eco, bien sûr. Un film de Jean-Jacques Hano tourné en 1986 et donc dans lequel on trouvait Sean Connery, mais il faut aussi ajouter qu'on y retrouvait Christian Slater dans le rôle de son adjoint et puis quelques trognes qui étaient vraiment extraordinairement traduites à l'écran, notamment Michael Lonsdale ou Michel Lonsdale, j'ai du mal à l'appeler Michael, F. Murray Abraham, Fedor Chaliapin Jr. et quelques autres pour un film soigné, j'adore les films soignés, c'est-à-dire un film où une grande attention avait été portée à la photographie, Tonino Delicoli quand même, au décor, Dante Ferretti, s'il vous plaît, au costume, Gabriella Pezzucci, elle, je ne la connais pas, je l'avoue, et bref, un film très jouissif, très jubilant, et qui réussissait en un peu plus de deux heures à rendre, pardonnez-moi, au moins l'essence du roman énorme d'Umberto Eco, avec beaucoup d'à-propos et beaucoup de subtilité. Bref, à nouveau, il faut bien le dire, un triomphe pour Jean-Jacques Hano, auquel nous consacrons notre émission de ce jour. D'autres films ensuite que je vais évoquer un peu plus rapidement, le temps passe, mais c'est bien dommage. On pourrait parler évidemment de L'Ours, tourné en 1988, d'après un roman de James Oliver Curwood, à nouveau un scénario de Gérard Braque, à nouveau une musique de Philippe Sard, et là encore, à nouveau un défi, comme Jean-Jacques Hano semble les aimer. En fait, l'homme aime à monter des projets monstrueux avec des difficultés qui ne le sont pas moins, en l'espèce des abeilles, des grenouilles, des lézards, des ours, des pumas, etc., etc., qui sont parfois pires que les starlettes d'Hollywood, c'est dire. Et bref, à nouveau, un triomphe commercial. De même pour le film suivant, mais qui là fut beaucoup plus critiqué, L'Amant, d'après le roman de Marguerite Duras, publié en 1984, le film sorti, lui, en 1992, d'aucuns, j'avoue, en être, le trouvèrent quand même bien trop sage et bien trop chromo pour coller à l'esprit, à la perversité du roman de Marguerite Duras. Et on sait que Jean-Jacques Hano en fut quelque peu blessé de l'accueil plutôt contrit de son film, notamment dans son pays natal. Ensuite, l'homme tourna l'un des premiers films utilisant le procédé sur grand écran IMAX. Ça s'appelait Guillaumet, Les ailes du courage, consacré à un pionnier de l'aviation. L'aviation, c'est mieux. Ah, de l'aviation, c'est pas mal non plus, remarquez. Et puis, il revint aux superproductions internationales. On le vit en 1997 aux commandes du 7 ans au Tibet avec Brad Pitt en vedette. Peut-être qu'on s'en écoutera un petit extrait avant la fin, mais ça dépend si tu parles encore pendant des heures et des heures. Oui, d'accord, j'arrête de parler. On écoute un extrait du film, de la bande originale, pardonnez-moi, du film suivant. Ça s'appelait en anglais « Enemy at the Gates ». En français, tout simplement, Stalingrad, ce qui n'était pas malvenu, puisque ça se passait pendant la bataille de Stalingrad, quelque part en 1943. Si mes souvenirs sont bons, un film de 2001, une musique de James Horner, je vous en dis deux mots, mais après la musique. les accents martiaux, j'allais dire martial, de James Horner pour un extrait de la bande originale de Stalingrad, un film de Jean-Jacques Hano sorti en 2001 et qui racontait pendant la bataille de Stalingrad eh bien, la rivalité de deux tireurs d'élite, l'un russe incarné par Jude Law, ben oui je sais mais c'est du cinéma, et l'autre allemand incarné par Ed Harris, ben oui je sais mais c'est du cinéma. Et ma foi, le résultat était bienvenu puisque évidemment cette rivalité, Jean-Jacques Hano l'englobait, si je puis dire, dans cette bataille titanesque qu'on a bien du mal, nous, deux autres générations, à imaginer et qui opposa pendant de longs mois les troupes allemandes aux troupes russes, dont il faut bien reconnaître qu'elles opposèrent une résistance glorieuse et définitive qui, dont il faut bien reconnaître qu'elle fit quand même basculer le sort de la Seconde Guerre mondiale. Et Jean-Jacques Hano, ma foi, avait réussi à la fois à centrer le film sur cette rivalité dramatique et puis à l'englober dans l'histoire avec un grand H. C'est là tout le charme du cinéma et aussi tout le charme d'un réalisateur dont je dois le dire, en parlant, eh bien, je redécouvre le fait qu'il a réalisé très peu de films qui ne sont pas plus qu'estimables et un grand nombre qu'on peut classer quand même dans la catégorie cultissime des chefs-d'œuvre. C'est le cas de La Guerre du Feu, Du Nom de la Rose, ça l'est peut-être moins du film qu'il tourna en ensuite, en 2004, ça s'appelait « Deux frères » et on y voyait deux jeunes bébés tigres abandonnés, ou plutôt leur maman était tuée par des méchants. Et après, eh bien, ma foi, chacun d'eux suivait un destin contrarié. Ouais, c'était quand même pas le meilleur film de Jean-Jacques Hano. Ce fut la même chose, et j'avoue que je ne l'ai pas vu. Pour le film suivant, ça s'appelait « Sa Majesté Minor » en 2007, un film qui fut un échec commercial total, il faut bien le dire, j'allais dire absolument total, totalement total, total suffira. Et l'homme, ma foi, eh bien, mis quelques années à s'en remettre, mais on le revit en 2011 avec un film qui racontait l'histoire du pétrole, tout simplement. Alors là encore, un peu comme Stalingrad, c'était un sujet bien ambitieux au cinéma, peut-être pas vraiment réussi, ça s'appelait L'Or Noir. Oui, vous ne l'avez pas vu non plus. La musique était de James Horner et, dernier opus en date, là, très très bienvenu, on retrouve la grande veine du Jean-Jacques Hano de L'Ours et non pas celui de Deux Frères, ça s'appelait Le Dernier Loup, un film qui se passe quelque part dans de magnifiques paysages mongols, une histoire, ma foi, fort bien racontée, fort bien interprétée et fort bien réalisée. C'est peut-être tout ça qu'on peut dire à propos de Jean-Jacques Hano. Et on va donc lui souhaiter bonne chance pour continuer une longue carrière. Et on va se quitter en écoutant, je l'avais promis, je le tiens, un extrait de la bande originale du film sorti en 1997 avec Brad Pitt dans le rôle d'un alpiniste allemand. Mais oui, mais c'est du cinéma. Ça s'appelait 7 ans au Tibet, 7 years in Tibet, in English. Et la musique en était du grand, de l'immensissime John Williams. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.